Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Heures passées de quelques secondes. Un très grand bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour un nouveau numéro de Wagon Livre, votre émission littéraire. Aujourd'hui, nous accueillons Charles Dantzig. Charles Dantzig, bonjour. Merci. Bonjour. Je suis très heureux, impressionné aussi.
Mais il n'y a pas de quoi. C'est moi qui suis très content d'être à Dijon.
Un grand merci. Alors, nouveau livre paru chez Grasset, intitulé « Inventaire de la basse période ». D'abord, bien sûr, on va parler de cet inventaire. Nous allons le feuilleter ensemble, regarder un grand nombre des définitions qui le composent. Puis il s'agira aussi de délimiter. Nous sommes en pleine basse période. Ça fait plus de 20 ans. Vraisemblablement, mais on y reviendra. Je voudrais d'abord vous présenter un peu. Sur la quatrième de couverture de votre essai abécédaire, peu d'informations, c'est vous qui jouez le modeste comme ça, alors que vous avez un parcours assez remarquable. Vous êtes né à Tarbes il y a quelques années, études de droit, vous êtes écrivain, vous êtes éditeur toujours, vous êtes également traducteur, essayiste, romancier. Ce qui est amusant aussi dans votre bibliographie, c'est qu'il est toujours précisé forme de roman, forme de poésie, forme de théâtre avec Rototo Premier. C'est assez récent, ça date de l'année dernière, je crois.
Oui, il y a quelques mois.
Alors, que faut-il retenir de vous ? Si vous devez vous présenter aux auditrices et auditeurs de l'émission littéraire de Radion, qu'est-ce que vous mettez en avant ?
Vous savez, la chose principale pour moi, c'est écrivain. Donc, c'est ça que je dirais, et quelles que soient les formes d'écrit. Vous avez dit que dans ma bibliographie, j'inscris des formes de romans, formes de poésie, etc. C'est parce que je ne crois pas vraiment au genre, et d'ailleurs, on en parlera peut-être dans cet essai-ci. Dans cet essai inventaire de la basse période, il y a des parties de fiction. Mais je pense que écrivain, c'est l'essentiel, car moi, depuis toujours, je vis par et pour la littérature, et je crois surtout que la littérature, surtout en ce moment, peut nous permettre de voir des choses que les autres formes d'écrit ne permettent pas.
Surtout que vous signalez qu'à travers cette basse période, nous sommes dans une mauvaise saison. Alors, à la fois pour la politique, pour tous les aspects de la société, on y reviendra très, très largement. Je rappelle quand même en 89 aux éditions du Rocher un premier essai sur un écrivain symboliste, Rémy de Gourmont. Vous croyez qu'il n'a pas été un peu oublié depuis ?
Eh bien, ça m'est égal. Moi, du moment que j'aime un écrivain qui n'est pas oublié, si je puis dire. Non, Gourmont était un écrivain très très conséquent. Il était symboliste, mais il a eu aussi un poste très très important au Mercure de France, qui était la grande maison de l'époque. Il a été un co-créateur de la revue, il a écrit des livres extrêmement importants. Le malheureux est mort en pleine guerre de 14 et sans descendance, ce qui l'a pas beaucoup aidé, mais il a gardé une influence sur Blaise Cendrars, sur Ezra Pound, qui continue à travers les temps.
Mentionnons aussi un premier roman, il y en a eu d'autres depuis, mais premier roman 93 intitulé « Confiture de crime ». Alors c'est l'histoire, je ne l'ai pas lu, hein, mais c'est l'histoire en fait d'un poète qui accède au pouvoir et ça dérape et ça déraille très vite.
Et ça dégénère, oui. J'avais écrit ce livre car j'avais été assez frappé en lisant les mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand, que Chateaubriand est l'écrivain français qui a eu le plus de pouvoir politique. Il a été ministre des Affaires étrangères et André Malraux n'a jamais eu que le ministère de la Culture, qui n'a pas autant d'importance. Et Chateaubriand a eu beaucoup de pouvoir. Eh bien, que fait cet écrivain qui se piquait aussi de poésie, qui a traduit de la poésie d'ailleurs ? Eh bien, il déclare une guerre à l'Espagne et il appelle ça dans ses mémoires « ma guerre d'Espagne ». ma guerre, mon moi, mon pénis, en quelque sorte. Et je me suis dit que les poètes au pouvoir, ça pouvait être extrêmement dangereux. Et donc, je me suis amusé à inventer un poète dingue qui prend le pouvoir et qui fiche tout en l'air.
Alors, avec ce premier roman qui a maintenant un peu plus de 30 ans, vous vous intéressiez déjà à un aspect alors extrêmement présent dans cet essai, à savoir la tyrannie.
Oui, en effet, c'est un sujet qui m'a toujours préoccupé. Mais ce qui m'étonne, c'est que ça puisse être un sujet qui ne préoccupe pas, en quelque sorte, parce que tout être humain est soumis à la tyrannie très très vite, car il a des parents. Et tout enfant est tyrannisé, ou la plupart des enfants le sont, et je dirais même tous. Donc,
je précise, c'est que les auditeurs ne l'entendent sans doute pas beaucoup. Nous l'entendons, mais il y a des cris d'un petit garçon qui est pas loin de nous dans le hall du grand hôtel de la Cloche à Dijon où nous enregistrons cette émission.
Voilà. Et qui me tyrannise. Non, c'est lui qui nous tyrannise.
Qui sont tyrannisés.
Voilà, c'est ça. Il nous tyrannise. C'était un truc que disait Rousseau dans Les Mille et qui était assez intéressant d'ailleurs. Il disait la tyrannie des enfants vient de ce qu'ils crient parce qu'ils ne savent pas faire autre chose et que ce cri est un cri pour réclamer quelque chose qu'on leur apporte. Et ils ont compris tout de suite que puisqu'on leur apporte, ils peuvent continuer à être tyranniques et Rousseau recommandait qu'on les amène vers la chose. Bref.
En tout cas, avec tous ces exemples littéraires, vous confirmez. Et ça fait partie. Alors, je ne dis pas du mot identité, parce que je sais que vous le considérez comme un gros mot, surtout pas. Mais je dirais que ça fait partie de votre culture. C'est que vous êtes un érudit.
Je ne sais pas. Non, vous savez, on ne sait jamais rien. Et plus on apprend des choses, plus on se rend compte qu'on ne sait pas. Le peu de choses que je sais peut impressionner quelques personnes. Il n'y a vraiment pas de quoi, parce que si on savait tout ce que j'ignore...
En 2005, le dictionnaire égoïste de la littérature française. Il y a eu le dictionnaire égoïste de la littérature mondiale chez Grasset en 2019. Je ne vais pas, bien sûr... passer en revue toute la bibliographie. En revanche, je souhaiterais, parce que j'ai trouvé cela sur Internet, vous avez en 2011 recréé et présidé le Stendhal Club, dont le nombre de membres dans le monde est limité à 12. Vous pouvez confirmer et expliciter...
Je confirme.
Stendhal Club.
J'ai fait ça avec quelques amis. Le Stendhal Club, en fait, c'était un hommage justement à Rémy de Gourmont, que vous avez si justement évoqué tout à l'heure, car Rémy de Gourmont aimait beaucoup Stendhal, et en 1900, il avait créé le Stendhal Club, ou était un des créateurs du Stendhal Club, du premier Stendhal Club, parce qu'à l'époque, Stendhal n'avait pas la gloire qu'il a maintenant. Stendhal est un écrivain qui a été assez négligé, qui a passé de nombreuses années dans l'oubli et dont la gloire s'est faite lentement à partir vraiment de la toute fin du 19e siècle. Et Gourmont avait créé ce Stendhal Club. Et donc, ça m'a amusé avec quelques amis de le recréer. Nous avons publié une revue que j'appelle éventuellement annuelle. Et d'ailleurs, il n'y en a pas eu beaucoup d'exemplaires. Et effectivement, nous avons un nombre limité à 12 dans le monde. Et quand on reçoit des demandes d'adhésion, on ne répond pas. Nous ne sommes que 12.
Parfait. Ce que je propose, Charles Danzig, c'est que nous marquions un premier intermède musical. Et puis, bien sûr... Ensuite, on passe en revue quelques-unes des définitions de cet inventaire de la basse période, votre dernier ouvrage paru chez Grasset, en attendant le prochain qui est prévu et qui s'intitulera « Les inhumanistes ». Tout un programme. C'est Wagon Livre sur Radion. On se retrouve dans quelques minutes avec notre invité.
C'est fin octobre, début novembre, le ciel est rose et bleu lavande, seul dans la foule de Montréal. Je marche, je cours sur Mont-Royal. Les arbres ont perdu leurs habits. Les merles bleus ferment leur nid. Chemin de terre, bonne cadence. Mon amour, tu me manques. C'est fin octobre, début novembre. Ma main te cherche dans sa balance. Un beau dimanche sur Saint-Laurent. Toutes les odeurs sont là tout le temps. Les langues sont un joli bordel. Si loin de la tour de Babel, moi Moi, c'est ta voix que je veux entendre. Mon amour, tu me manques. C'est fin octobre, début novembre. Ma ville s'endort en ton absence. Mais dis-moi, quand reviendras-tu? Fou rire sans toi, c'est peine perdue. T'es rare comme une étoile filante. Je fais pas de vœux, j'ai pris une chance. Je garde ton odeur dans la chambre. Mon amour, tu me manques. Sur Mont-Royal, les arbres ont perdu leurs habits. Les merles bleus ferment leur nid. Chemin de terre, bonne cadence. Mon amour, tu me manques.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Retour avec Charles Danzig, que nous avons enregistré à Dijon fin février dans le cadre du Club des écrivains de Bourgogne, dont il était l'invité pour Inventaire de la basse période, paru aux éditions Grasset. Charles Danzig, il faut expliquer ce qu'est cette basse période, et c'est d'autant plus important que vous l'expliquiez parce que nous sommes en plein dedans.
Eh bien, c'est une expression que j'ai inventée parce que depuis plusieurs années, je suis assez inquiet de ce que devient, disons, la civilisation.
La civilisation du vieux monde occidental.
Oui, c'est ça. Et depuis plusieurs années, ça a l'air de se dégrader. Et donc, je trouve que nous sommes dans ce qui ressemble à une marée basse, d'où le mot basse. Et le mot période vient du fait que je n'ai pas voulu employer le mot époque parce que, d'une part, époque présuppose une durée plus longue qu'une période. Donc, espérons que cette période ne sera qu'une période et pas une époque. Et par-dessus le marché, je trouve que époque est un mot souvent réactionnaire. Tous les vieux réacs disent qu'à l'époque, c'est la faute à l'époque. Donc c'est un mot que je n'aime pas. Donc voilà, j'ai appelé ce moment si particulier dans nos sociétés occidentales basse période.
En tout cas, vous créez une chronologie. Si nous sommes dans une basse période, vous croyez en une nouvelle renaissance. D'ailleurs, le titre du prochain essai, Les Inhumanistes. On pense à ce qu'était l'humanisme européen, parce qu'il n'a pas été que français,
évidemment.
Loin de là. C'était la fin du Moyen-Âge, des Dark Ages, comme on le disait en anglais. Vous pensez qu'on est revenu dans une période... Parce que bon, le Moyen-Âge a des côtés brillants aussi.
Enfin, le Moyen-Âge tardif. D'une part, je pense que le bien gagne toujours. Parce que sinon, ni vous ni moi ne serions là. On a vaincu Jean Giscard, on avait vaincu Hitler, enfin Mao est tombé. Tout ça se passe au prix de grandes souffrances, mais si le mal gagnait, l'humanité aurait complètement disparu. Donc, en fait, le mal perd toujours, mais au prix de grandes souffrances. Et je pense que nous sommes au bord de chavirer dans une période très grave. J'ai dédié mon livre à Sidoine Apollinaire.
Il faudrait expliquer qui est Sidoine Apollinaire.
Et ce Sidoine Apollinaire est quelqu'un de bien intéressant. C'est un peut-être le dernier latin en quelque sorte. C'est un écrivain qui date, disons, de l'an 500, pour simplifier, de notre ère, et qui était un vrai romain, il était si romain de l'ancienne Rome qu'il avait épousé le fils du dernier empereur. Et puis, sauf que le dernier empereur, on ne savait pas que c'était le dernier. Il n'arrêtait pas d'y avoir des coups d'État, des renversements. C'était aussi une basse période. Et il pouvait se dire, tiens, peut-être qu'il y aura à nouveau dans quelques mois un autre empereur. Sauf que là, il n'y en a pas eu. Et que Sidoine Apollinaire, qui était un lettré, on a encore des livres de lui. On a un livre de poèmes magnifiques et deux livres de correspondance sublimes. S'est exilé en Gaule, chez nous, et il est devenu évêque de Clermont. Il s'est rendu au nouveau pouvoir qui était le pouvoir catholique, et il écrit des lettres en disant qu'il est stupéfait par la façon, d'une part, de la détérioration de l'État, parce qu'en fait, c'est peut-être aussi ce qui se passe maintenant, c'est que l'État romain, en se délitant, s'était morcelé en des tas de petites principautés, comtés, etc. D'autre part, il a vu les barbares, il a vu les invasions barbares, il a vu les Goths. Sidoine Apollinaire a vu Attila. Donc, on peut dire que ça allait mal. Et c'est par-dessus le marché, et c'est une chose que je trouve très, très importante, c'est l'homme qui passe pour avoir inventé le mot barbarisme dans le sens où on parle mal. Et ses lettres sont remplies de désolation, disant il y a plein de barbarisme dans le latin maintenant. Mais nous sommes au bord de ça. Les États ne se sont pas complètement délités encore, mais il y a un lent travail, à mon avis, pour les détruire. Mais Sidoine Apollinaire, il est de 500. Et les choses... Vous parliez des âges noirs, pour traduire l'expression Dark Ages en anglais. Les âges noirs, ils ont duré bien longtemps. La vraie renaissance médiévale, c'est autour de l'an 1200. Donc il y a eu 700 ans atroces. Est-ce que nous entrons dans 700 ans d'atrocité? Je n'en sais rien.
En tout cas, au début, vous précisez bien que nous marchons dans les broussailles et dans les ronces, et qu'effectivement, on n'est pas sur une voie royale, bien éclairée.
Sûrement pas.
On n'est pas sur le chemin de la paix, de la culture, de l'intelligence.
Non.
Malheureusement, règne un grand nombre de contre-valeurs. Alors, j'ai fait un petit relevé de tout ce... Et j'en ai oublié plein hein, parce qu'en fait, on peut le picorer, cette forme de dictionnaire inventaire. Vous écrivez que la basse période cherche la démolition la plus rapide possible de ce qui ralentit le pouvoir, notamment les instruments de culture. Vous écrivez un des excitants de la basse période est la haine de l'Europe. Alors tout cela nous fait penser à une actualité plus que brûlante. Cet inventaire, vous l'avez commencé il y a quelques années ou c'est un... Oui,
oui, oui, je l'ai commencé.
Alors là, en vous lisant, on est... Dans l'actualité, je dirais, on est irradié même par tout ce que vous écrivez.
Il n'est hélas pas difficile d'avoir un peu de prescience dans les temps où nous vivons. C'est-à-dire que tout va tellement mal que quand on dit ça va mal, on ne peut prédire que l'exactitude. Oui, je pense que on est vraiment dans un moment de destruction, mais mon livre n'est pas un livre d'actualité. Il y a des choses d'actualité, il y a des choses excessivement contemporaines même, mais je pense que ça va aussi au-delà, parce que je pense que, outre la politique et les instruments de destruction des États et de tout ce qui nous protège, il y a aussi quelque chose, à mon avis, de plus grave, c'est la détérioration du langage. Et mon livre est parcouru de ça. Je pense que il faut prendre garde à la détérioration du langage qui est universelle. On pourra en reparler si vous voulez, mais qui nous affecte vraiment beaucoup. Et c'est grave parce que, pour moi, je pense que qui parle mal pense mal.
Ça, c'est un petit peu dans la lignée de Camus, mal nommer les choses. C'est cette idée que mal nommer les choses, c'est aussi mal appréhender les réalités et le monde dans lequel on vit.
Oh, vous savez, personne n'a inventé ça. Confucius disait en effet qu'il fallait des dénominations correctes. Un jour, Confucius est appelé en consultation par le roi de Wei, un roi de l'époque, et parce que son état ne tient pas debout, et Confucius lui dit « Eh bien voilà, ta maîtresse est ministre, ton ministre va à la chasse au lieu de faire son travail, il est donc chasseur, et ce qu'il faut, c'est rétablir les dénominations correctes. » Eh bien, je crois que nous sommes en plein là-dedans. C'est-à-dire que nous avons des présidents de République qui vont faire les bouffons à la télévision. Je ne vise personne en particulier. Et donc, sont-ils présentateurs de télé ou présidents de la République ? Nous avons, de la même façon, des maîtresses qui deviennent ministres parce qu'elles sont maîtresses. Nous avons... Donc, tout ça, c'est une espèce de mélange universel de tout où les mots n'ont plus... J'ai horreur du mot valeur qui est aussi un mot réactionnaire, mais qui n'ont plus de durée dans leur sens.
Alors, peut-on dire que nous sommes dans une époque de décadence ? Vous qui êtes si frotté de culture antique gréco-latine.
Nous sommes dans une période et pas dans une époque. Et d'autre part, décadence est un mot que je n'aime pas. Je crois que on se fait des idées fantasmatiques de la décadence. On pense que la décadence, c'était on mangeait des racines en se roulant dans la boue et en couchant devant tout le monde, avec tout le monde devant tout le monde, dans des rues conchiées par des animaux. C'est faux. Sidoine Apollinaire, qui a vécu la décadence de l'Empire romain. Ça n'allait, ce qui était détruit, c'était les structures de l'État, mais dans les petits comtés, etc., on vivait tout à fait normalement dans des petits espaces. Il y avait beaucoup d'argent, il y avait des milliardaires comme maintenant. Et donc, la décadence est une chose... Je pense que nous sommes entrés dans la basse période précisément à cause, en partie, à cause de ceux qui hurlent depuis 20 ans à la décadence et qui appellent à l'ordre et à la force. Et pour moi... Le premier symptôme de la décadence, c'est l'admiration de la force. La force, c'est la décadence. La civilisation, c'est le droit. Et si je dois citer une chose d'actualité, il y a peu de semaines, un des principaux conseillers de Trump aux États-Unis a déclaré sur CNN, a fait une interview sur CNN en disant « L'ère du droit, c'est fini. Maintenant, nous vivons l'ère de la force et le plus fort gagne ». Voilà ce que c'est la décadence.
Alors vous écrivez aussi « L'autoritarisme n'est pas démodé en Europe ». Vous parlez peu de la France, vous parlez de l'Italie, vous parlez de l'Angleterre. Alors bien sûr, il y a un fort projecteur sur tous les pays qui sont dominés par des pouvoirs forts. L'impérialisme russe, un petit regard sur Erdogan, qui d'ailleurs peut facilement insulter ses confrères chefs d'État en public. Petit coup d'œil aussi sur ce qui se passe, bien sûr, du côté des États-Unis. Alors, le trumpisme, alors là, vous allez, à mon avis, vous ne pourrez plus jamais rentrer aux États-Unis, Charles.
Oh, je crois, oui. Je crois que tant qu'il est là, on me refusera le visa d'entrée. Forcément, si, je parle de la France. Je parle de la France. C'est un des sujets parmi d'autres. C'est-à-dire que nous sommes un peu moins au bord du précipice. Mais enfin, on nous a préparé... une France prête à se soumettre à l'autoritarisme. Et ça, pour moi, et je le dis dans le livre, ça date de Sarkozy.
Ah bah oui, et puis après, vous dites quand même que l'épisode du confinement et de la Covid...
Aussi.
Également.
Aussi. Donc il y a d'abord... Je pense que les choses se sont dégradées sous Sarkozy pour des raisons de langage beaucoup, parce que la façon dont parlait Sarkozy était... D'abord, il parlait très mal le français, mais d'autre part, c'est la première fois qu'on entendait un président de la République employer le mot « racaille ». Et moi, je pense qu'un président de la République a un devoir de tenue. S'il se permet de parler comme un voyou, il a un double avantage. C'est le pouvoir, la voiture avec chauffeur, et de pouvoir mal se tenir. Quand tu as l'avantage du pouvoir, tu dois avoir de la tenue. Et d'ailleurs, je donne un autre exemple dans mon livre de manque de tenue, qui est beaucoup plus grave que la simple tenue. C'est quand Carla Bruni est devenue présidente de la République, ou disons la femme de Sarkozy, elle a aussitôt fait un shooting pour le Vanity Fair français, un magazine, et elle s'est faite photographier sur le toit de l'Élysée, en robe longue, en tenant la hampe du drapeau français, en riant comme une folle, comme si la République, c'était une comédie musicale. Eh bien, je pense que ça, c'est des débuts de dégradation des choses.
Si je prends l'article ou l'entrée identité de l'inventaire, l'identité, bon... On est bien candide de croire en avoir une. En 2007, vous ne citez jamais, hein, en 2007, un président de la République française, je dis bien de la République française, a osé créer un ministère de l'identité nationale. Je présume qu'il a dû décliner son identité au début des procès qui, 17 et 18 ans plus tard, l'ont mené à 6 ans de prison ferme pour corruption, trafic d'influence et association de malfaiteur. Alors il y a beaucoup d'ironie.
Ben, vous avez raison d'ailleurs, j'ai nommé Sarkozy tout à l'heure en vous répondant, mais par mépris je fais exprès
souvent,
de ne jamais le nommer.
Vous ne nommez pas les choses, justement. Oui. Vous tombez dans le travers qui consiste à ne pas désigner ou à ne pas utiliser le mot juste, ou alors vous les privez d'identité.
Ben, non, ils sont assez reconnaissables, je pense. Et personne n'a besoin de moi quand je dis le président de la République de 2007 pour savoir qui c'est. Et je pense que tout le monde les reconnaît. Tout le monde reconnaît Macron dans une chose qu'il a faite, d'entreprise de destruction de l'État aussi, car il est très destructeur. Et ça, c'est une chose qui peut nous préparer et qui nous prépare à l'autoritarisme, c'est-à-dire d'abord son indifférence totale aux corps intermédiaires, mais en plus la destruction de tas d'organismes d'État. L'ENA, ça n'est rien. Mais enfin, détruire l'ENA, c'est déjà un signe. C'est l'École nationale d'administration. Mais il a aussi supprimé le corps diplomatique, qui est la dernière chose d'influence que la France avait à l'étranger. Nous avions le réseau de diplomates le plus important du monde et qui avait de l'influence partout. Sauf que ce président de la République-ci, considérant qu'un pays, ça doit être de la gestion comme si c'était une entreprise, a créé un corps unique des employés de l'État dans lequel on pioche, et un monsieur pourra un jour être préfet, le lendemain ambassadeur, le surlendemain directeur d'hôpital, comme si on avait des compétences pour tout. Donc en fait, c'est la destruction des structures mêmes de l'État.
On marque un nouvel intermède musical dans ce wagon-livre enregistré au Grand Hôtel de la Cloche à Dijon fin février dernier, alors que Charles Danzig était l'invité du Club des écrivains de Bourgogne pour Inventaire de la basse période, paru aux éditions Grasset. On se retrouve dans quelques minutes, toujours dans Wagon-livre, l'émission littéraire de Radion.
Si je donne un jour, crois pas que ça y est, que c'est pour toujours et à jamais.
Comme jamais.
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 Hey, buongiorno.
Hola, ¿qué tal?
Hola. C'est beau.
Impeccable.
Oula, elle est pas cuite la viande là.
Ah oui, ça, mais c'est normal, c'est un petit carpaccio.
Ah ouais, c'est très épais quand même.
Hein?
Ouais, dégueu.
Et comme ça, il y a de la mâche.
J'ai pas compris la blague.
J'entends le plus pour t'aimer. Entendant le vide de tes baisers, j'aurais pu t'aimer sans m'aimer. S'entendant le vide de tes baisers, un jour là sous le monde, là sous la ville, pardonne-moi, je t'ai choisi.
Brutal quand même.
Ouais, c'est sorti tout seul.
Ouais, ça reste brutal.
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 Je me demande pourquoi je ne ressens pas la joie quand j'ai ta voix.
T'es parti, j'arrive en fait au début de la fin du milieu de ma folie. Je crois que je suis paumée. Et dans ma tête, je voudrais un GPS qui me guide. Je crois que ça pourrait m'aider pour avancer. Car là, j'ai pas bougé. J'ai rien vu et j'ai pas venu. Je suis pas la bienvenue. Rendu-moi là, je suis foutue. Ça y est, ça y est. J'ai perdu, j'ai pas envie. Et maintenant je pleure, je suis pas venue là pour souffrir.
Sourire,
sourire,
ok, ok.
J'ai rien vu et j'ai pas venu, je suis pas la bienvenue. Rendu-moi là, je suis foutue.
Ça y est, ça y est.
J'ai peur.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Alors Charles Danzig, c'est président que l'on reconnaît dans les différentes entrées de cet inventaire de la basse période. Parfois, vous les appelez président 4, président 8. Ça, c'est assez, c'est très, très drôle. Et vous montrez aussi que si un grand nombre d'États s'effritent, perdent de leur autorité, de leur légitimité, parfois d'ailleurs, hein, qui est contestée, l'Europe ne s'en sort pas mieux. La preuve, vous l'appelez l'Europe Chamberlain, en rappelant ce triste épisode où les démocraties européennes avaient cru sauver la paix en Europe. Il n'en fut rien.
Oui, c'est ça, puisque Chamberlain était le premier ministre de Grande-Bretagne et du Royaume-Uni juste avant Churchill, et qui faisait tout pour apaiser Hitler et les fascismes. Et c'était d'ailleurs, ça s'appelait comme ça, la politique d'apaisement. Et c'est exactement ce que l'Europe fait avec celui qui est en train de tenter de détruire non seulement l'Europe, mais le vieux système occidental tout entier, qui est Trump. C'est-à-dire, tout le monde sait très bien que l'Europe se couche très volontiers, sans discontinuer depuis un an, devant les caprices de ce bébé tyrannique.
Et vous écrivez dans l'article Europe Chamberlain, il faut qu'un pays dictatorial soit de la taille d'un chihuahua pour que l'Europe Chamberlain, masculinement, se dresse sur ses petites pattes. Alors ce qui est intéressant, là, c'est l'adverbe masculinement qui me fait un peu rebondir, parce qu'il y a plein de rebondissements dans ce texte qui est épais et très riche. Vous expliquez aussi que finalement, la tyrannie vient... Alors si je vous ai bien lu, hein, bien sûr, Charles Danzig, vous me corrigez, vous me fouettez, vous me fustigez.
Vous fustigez.
Oui, vous me fustigez sévèrement. Si je vous ai bien lu, finalement, une sorte de masculinisme et d'hétérosexualité très affirmée est très en lien avec l'instauration de la tyrannie. Vous dites que Trump, par exemple, a joué beaucoup de la misogynie, notamment dans sa... son premier quinquennat.
Oui, oui, bien sûr. C'est 4 ans.
4 ans, pardon.
C'est déjà trop. Oui, bien sûr. Il me paraît évident que nous avons là une tentative de revanche des brutes virilistes, masculinistes, hétérosexuelles qui étaient très mécontentes de ce que depuis quelques années on leur demandait de bien se tenir, de pas rôter à table et de pas pincer les fesses des femmes comme si elles étaient leur propriété. Et c'est tellement évident. Et il suffit d'ailleurs de voir l'aspect physique de ces gens-là. Je ne parle pas de Trump, dont on voit bien qu'il a, je ne sais pas, la tête d'une vieille joueuse de canastan en Floride qui s'est fait rater un peu la teinture des cheveux et qui boit un peu trop de gin tonic. Mais je veux dire, même ses employés, voilà, les employés de Trump, qu'est-ce que c'est ? C'est le secrétaire d'État, le ministre de la Défense, pardon, Hegseth, qui est un type qui se montre faisant, en photo et en film, faisant des barres fixes torse nu. On a vu la semaine dernière Robert Kennedy, le fils du Kennedy qui avait été assassiné et qui est ministre de la Santé, se montrer lui aussi torse nu en exhibant ses biceps. Enfin, qui fait ça à part un homme paniqué de l'idée qu'on lui fait perdre sa virilité ? Et qu'est-ce que c'est sinon de la brutalité ? Moi, je pense que la civilisation vient du fait qu'on dissimule l'organique et qu'on dissimule le physique. Voilà. De la même façon que les femmes n'ont pas davantage à se montrer à poil à la télévision, les hommes non plus, si je peux employer une Mais le truc, c'est que les femmes ne font pas ça. Et que celles qui sont, là je parlais des hommes, mais celles qui sont employées par les trumpistes en général, sont des femmes qui sont des proies de la misogynie la plus terrible. Regardez les femmes qui sont ministres de Trump, on voit bien qu'il les a choisies par misogynie. Par exemple, celle qui s'occupe du tristement célèbre ICE, vous savez, l'agence qui est supposée chasser l'immigration et qui tue des gens aux États-Unis. Eh bien, cette femme qu'on surnomme aux États-Unis Gestapo Barbie, qui s'appelle Christine Homme, est une femme avec des seins archi-gonflés, qui est mal refaite, et je pense qu'elle est choisie misogynement, précisément parce que c'est une femme abîmée. Ces gens-là veulent des femmes abîmées. Ils veulent pas des femmes intelligentes. Ils veulent pas des femmes qui ne soient ni belles ni laides, mais simplement ni belles ni laides, mais simplement intelligentes. Tout ça, il y a un vrai ressort de gorille.
Alors que Donald Trump a une très jolie femme.
Oui, enfin, on la voit pas.
On la voit pas beaucoup moins.
Oui, il a une très jolie femme. Mais il a une femme qui est aussi un choix de sa misogynie, probablement. C'est une femme qui est un trophée. Enfin, ça n'est pas Madame de Staël. Elle n'est pas réputée pour penser de manière chez Devral. Et c'était quand même... Je ne crois pas faire des révélations fracassantes en disant que c'était la prostituée la plus connue d'Europe de l'Est qui s'est faite engager comme mannequin avec tous les guillemets que vous voulez par Epstein et qui est arrivée dans le lit de Trump, et elle était jolie. Elle était même très belle, mais il l'a choisie précisément comme trophée. C'est un choix de misogyne. Et pour compléter la basse période, puisque vous m'en donnez l'occasion... Déjà du temps du premier mandat de Trump où ça se passait mal, on a publié aux États-Unis des photos de Madame Trump avant qu'elle ne soit présidente de la République, nue, avec les fesses à l'air, avec des talons aiguilles et les jambes écartées. C'était des photos supposées érotiques, mais quand je pense à ça... On n'a jamais vu ça dans le monde occidental depuis Néron. Enfin, on assiste à la fin, vous savez, de cette dynastie qui était les Julio-Claudiens, qui sont arrivés après César, et qui étaient Néron, Tibère et des gens comme ça. C'est ça, c'est-à-dire des brutes qui ont un pouvoir et une force considérable et dont les femmes se montrent à poil.
Alors, vous tapez beaucoup sur Trump. Hein. Là, alors, vous dites Trump.
J'ai tort ?
Ah, je ne sais pas, mais c'est vrai que ça ne va pas dans le bon sens tellement. Ce Donald inquiète beaucoup de monde sur la planète. Non, mais j'ai peur pour vous, cher Charles Danzig. J'ai peur pour vous que des Américains viennent vous kidnapper en France. Vous parlez de Trump et de son gang. Vous dites un des plus. Alors, vous de Trump, vous dites que c'est un des plus dangereux sauts de la basse période. Et alors, attention, hein, vous l'appelez l'empereur. Vous dites le Trumpisme est international. C'est vrai qu'il y a des gens qui cherchent à l'imiter.
Et qui se recommandent de lui.
Le Trumpisme est un comportement. Le trumpisme est un terrorisme et le trumpisme est un totalitarisme.
Oui, je crois.
Alors après, vous parlez de Trump et de son sadisme institutionnel, vous en avez déjà un petit peu développé. Ce qui est aussi... Alors, c'est très très riche votre... c'est très difficile d'en parler, parce que sur cette...
Mais non, vous en parlez très bien depuis tout à l'heure. Alors,
merci Charles Danzig, mais c'est un exercice un peu délicat, parce que forcément on oublie plein d'entrées qui sont passionnantes. Il y a un aspect de réflexion, justement, forcément, sur le fait que la culture est attaquée et que tout de même, vous parlez d'ignorance, elle est de plus en plus importante dans la classe moyenne française. Alors, aux États-Unis, n'en parlons pas.
Oui, alors, si vous voulez être ignorant en soi, ça n'est pas grave. Moi-même, je suis ignorant. Il y a des tas de choses que j'ignore, mais d'une part, il faut le reconnaître et c'est mieux. Et d'autre part, ce qui me frappe, c'est que, et ça, c'est très basse période à mon avis, c'est que pour la première fois depuis très longtemps, nous vivons dans un moment où les ignorants n'ont plus honte. Moi, quand j'étais gamin, que j'étais adolescent, et vous, j'imagine aussi, quand dans une conversation d'adulte où j'entendais quelque chose que je ne savais pas, je rougissais de honte et je me précipitais, mettons, sur le dictionnaire pour apprendre quelle était la signification de ce mot que je ne connaissais pas. L'ignorance avait honte et c'était très bien. Et maintenant, l'ignorance est épatée et très contente de l'être. Et c'est ça qui est dangereux.
Parce que, en fait, toutes ces cohortes d'ignorants sont finalement prêtes à tout, mais pour être valorisés.
Mais d'une part, parce que ce sont des brutes qui se montrent, comme nous disions tout à l'heure, qui se montrent dans des films torse nu en faisant des haltères, mais d'autre part, parce que dans leur cerveau même, il n'y a plus aucune référence historique ou culturelle qui les avertisse. Parce que l'avantage de la culture, c'est que c'est une alerte. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que la destruction de l'enseignement, oui, qui est assez avancée aussi, est très dangereuse.
J'allais vous dire, Charles Danzig, quid de l'éducation nationale ou des enseignants qui sont dans des situations parfois bien complexes?
Les malheureux.
Une hiérarchie qui ne les soutient pas, des parents qui les accablent, des élèves qui ne les respectent pas, quand ils ne les agressent pas physiquement.
Bien sûr, non, mais c'est affreux. Et il faut. Alors, cela dit, il y a aussi, vous savez, des choses, tout est mélangé. Tous les enseignants n'ont pas toujours tous raison non plus, et les malheureux sont souvent bien embêtés et très mal payés, etc. Mais quand vous pensez que c'est aussi l'organisation de la basse période, il y a depuis quelques années, un décret permet aux parents de plus de 3 enfants de pouvoir se présenter au concours de l'enseignement sans diplôme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a 3 enfants et donc on a la moindre qualification pour enseigner l'histoire du Kamtchatka ou le règne de Louis XI. Enfin, c'est aussi un signe de mépris pour la culture et l'enseignement qui est considérable, considérable. Et en fait, la mission essentielle qui est de transmettre un savoir, parce que ce savoir donne des garde-fous, c'est ça qui est en train d'être détruit. Moi, je fais partie, je ne sais pas à quel âge vous avez, mais je présume que vous n'êtes pas très éloigné de moi, nous faisons partie des générations qui avons encore entendu parler de la Deuxième Guerre mondiale par des gens qui l'avaient vécu d'assez près. Moi, j'ai entendu ma mère, qui devait avoir entre 10 et 15 ans pendant l'occupation, parler de la guerre, ce que c'était, etc. Par-dessus le marché, j'ai été éduqué, j'ai fait des bonnes études, et tout le monde faisait de bonnes études. Mais maintenant, on n'a plus ça. Déjà, il n'y a plus la transmission familiale des choses dangereuses. Parce que, et tant mieux pour eux d'ailleurs, mais les gamins de maintenant n'ont pas eu de grands-parents ou de parents leur disant le fascisme, c'était ça, la guerre, c'était ça. Mais par-dessus le marché, l'enseignement n'est plus là non plus. Je croisais il y a quelques jours à Paris un professeur de Sciences Po qui évoquait Julien Gracq à des étudiants de première année. Il a vu un blanc et il s'est interrompu, il a demandé aux étudiants « Mais savez-vous qui est Julien Gracq ?» Des étudiants de Sciences Po qui avaient donc passé un concours ne savaient pas qui c'était. Donc ça, c'est dramatique parce que voilà, la culture, ça ne sert à rien, le savoir, ça ne sert à rien, sauf que on sait que ça transmet l'idée que des choses ont existé qui peuvent être dangereuses.
Alors, vous avez... Alors, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez forgé, le terme de chrétieniste.
Oui, c'est moi.
Vous dites il y a des islamistes, donc je crée le terme de chrétieniste. Alors, que sont ces chrétiennistes ? Vous dites qu'il y en a dans la sphère du pouvoir trumpien.
Bien sûr. Bah, ce que j'appelle chrétiennistes, ce sont, en particulier chez les évangéliques, il y en a beaucoup, ce sont des gens qui, au nom de la religion chrétienne, décident de se mêler du politique. De la même façon que les islamistes, au nom de la religion islamique, décident de se mêler de politique, ce que je trouve très, très critiquable. Moi, je suis pour la séparation, et pas moins seul, des églises et des États. Et nous avons, autour de Trump, des gens qui disent qu'il faut réenseigner les prières dans les écoles, mais non seulement ça, qui disent qu'il faut supprimer l'autorisation de l'avortement, mais qui interviennent dans la vie privée des gens. Donc, en fait, ce sont des fanatiques.
Alors, j'aimerais que vous nous lisiez l'article « Islam rigoriste ». Alors, franchement, vous m'inquiétez, Charles Danzig. Hein.
En 2023, le chauffeur d'un taxi m'amenant à Roissy raconte que les femmes du Proche-Orient viennent à Paris pour le sexe tout aussi bien que les hommes. Il a récemment chargé, comme il dit, à Roissy, deux Saoudiennes entièrement voilées qui lui ont demandé de s'arrêter sur une aire d'autoroute, des toilettes desquelles elles sont sorties habillées court et maquillées épais, après quoi elles lui ont confié, car il est d'origine maghrébine, qu'elles se rendraient plus tard dans un certain bar de l'avenue Matignon pour y consommer des escortes, soit slaves et blonds, soit asiatique et musclé, soit noir et sinueux, en aucun cas arabe.
Ça, c'est authentique.
Ça, c'est authentique.
Alors, finalement, vous êtes presque dans une croisade qui me rappelle beaucoup celle des philosophes du siècle des Lumières, c'est-à-dire dénonçant l'obscurantisme, la barbarie, l'injustice, l'ignorance sur laquelle peut pousser les choses les plus affreuses. Ah ben, vos combats intellectuels à mener, vous êtes seul
ou je suis d'accord avec vous, à l'exception du mot croisade, qui a été une organisation atroce. Et je ne pense pas que les Lumières étaient une croisade, c'était un combat. Les croisades étaient organisées par le pouvoir et les philosophes étaient contre le pouvoir. Et je n'ai rien inventé, je suis dans la lignée. Moi, je suis un enfant de Voltaire, mais aussi de Rabelais et de toute cette littérature française, combative, mordante, et qui, j'espère, de temps en temps, est drôle, car la drôlerie est une grande arme contre les tyrans et les apprentis tyrans, car elle leur montre que nous n'avons pas peur. On leur dit « vous êtes des bouffons ».
Vous écrivez « si la France n'a jamais eu de peine à glisser dans l'autoritarisme, c'est que depuis 1789, que je bénis, elle a vécu dans l'ambiguïté ».
Oui, oui, la France est assez. Je pense que la France est assez peu démocrate, qu'elle est très ambiguë pour ça. Vous savez, si on fait le décompte des périodes depuis la Révolution française réellement démocratiques, il y a eu la Constitution de la Première République, il y a eu une partie de la Deuxième République, entre les deux retours des monarchies, ensuite coup d'État et autoritarisme de Napoléon III. Les débuts de la troisième étaient démocratiques. Ensuite, de quoi, guerre de 14, nous avons eu la dictature de Clémenceau qui a été bien utile, mais enfin où les droits étaient assez limités. La quatrième république que tout le monde conspue, pour moi, était une très bonne république. Et la cinquième république est démocratique, si on veut.
Vous parlez du populisme. Alors, le populisme, d'ailleurs, dans l'article « Ermite mondain », j'ai peur de ne pas avoir bien cerné l'écrivain que vous pointiez du doigt, mais vous parlez de lui de manière périphrastique en écrivant « c'est un des écrivains réactionnaires préférés des Français ». Alors là,
si j'avais voulu dire le nom, je l'aurais écrit.
Donc là, vous n'osez pas trop nommer.
C'est pas que j'ose pas, c'est que je ne veux pas que mon livre. C'est un cas particulier qui me paraît d'une importance générale. Donc je n'ai pas cité le nom de cette personne parce que je pense que si je donne son nom, comme il est connu, on penserait que d'une part j'ai voulu me venger de sa personne qui m'est absolument égale. C'est un comportement que je dénote et qui est plus général que sa petite personne.
Alors est-ce que je peux vous demander de revenir parce que en 2012 il y a eu une grande polémique parce que vous avez parlé du populisme qui entrait qui frappait à la porte de la littérature, et cela vous a indigné. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, Charles Danzig, expliquer ce qu'est ce populisme en littérature? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose qui est contraire à l'esthétique de la littérature, ou est-ce que vous y voyez une entrée sournoise de valeurs liées à... Parce que populisme était plutôt positif à l'origine, ce terme populisme, alors qu'aujourd'hui, il a une connotation négative très forte.
Bien sûr, mais on voit... C'est-à-dire que la grande perversité des populistes qui se réclament du peuple, évidemment, et en fait, ils se réclament du peuple pour mieux l'assommer une fois qu'ils arrivent au pouvoir. On en a un exemple très parfait avec Trump, évidemment, qui a fait une campagne populiste et qui, arrivé au pouvoir, ne récompense que ses amis milliardaires et laisse les gens mourir. Le populisme dans la littérature, c'est tout à fait la deuxième version de ce que vous disiez, c'est-à-dire que c'est l'introduction dans la littérature de valeurs, et j'ai horreur des valeurs, qui sont tout à fait contradictoires avec la liberté de la littérature et qui sont qui en fait s'en prennent plus généralement aux choses de l'esprit. C'est-à-dire qu'on a inventé le mot élitiste pour dire c'est pas bien. Moi, je suis pour l'élitisme, pour tout le monde. Tout le monde mérite l'élitisme. Et il s'est créé, depuis que j'avais écrit cette tribune qui m'a fait beaucoup conspuer, et hélas, tout montre que je ne m'étais pas trompé, cette haine de l'élitisme, c'est-à-dire de la recherche, du savoir, de reconnaître qu'on est ignorant et de chercher des choses, s'est transformée à l'avantage de choses de moindre qualité. C'est-à-dire que, par exemple, il y a quelques semaines, je pense à Dan Brown, pour vous citer quelqu'un, l'auteur du Da Vinci Code. Moi, j'ai rien contre la littérature populaire, c'est sympathique, ça existe, etc. Mais elle doit avoir sa place, de même que Stéphane Mallarmé a sa place. Eh bien, pour son dernier livre, il y a quelques mois, Dan Brown a fait, en Italie, la couverture du Venerdì. Le Venerdì, c'est le supplément de la Repubblica, qui est l'équivalent du Monde, qui est un journal très sérieux. Eh bien, il y a 5 ou 10 ans, jamais Dan Brown, d'abord c'est simple, il n'avait jamais fait la couverture de ce supplément et il n'était même jamais traité. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de terreur de ne pas avoir l'air sympa et cool avec la littérature populaire qui est en fait très dangereuse. Parce que tout ça va dans le sens de la paresse. Vous comprenez, on vit dans une société où, très curieusement, l'effort est valorisé à peu près pour tout. Pour le sport, c'est merveilleux les efforts. Pour gagner de l'argent, c'est merveilleux les efforts. Pour l'armée, c'est merveilleux les efforts. Mais pour la culture, oulala, l'effort, c'est élitiste.
Je voudrais terminer avec une formule de politesse. Ça m'a fait vraiment beaucoup rire. Alors, c'est un mail que vous avez écrit à une malfaisante.
Oui.
Bien. Je vous laisse le lire.
Mon Dieu. Non, je préfère que vous le lisiez.
Alors, je le lis pour nos auditrices et auditeurs. Et franchement, comme j'ai ri. Donc, vous écrivez à une femme qui, je ne sais pas, a dû être odieuse avec vous. Je ne signalerai pas publiquement votre existence, ne voulant pas nuire à l'humanité. Les mouches sauront vous trouver. Grand merci, Charles Danzig. Inventaire de la basse période, c'est aux éditions Grasset, et on attend donc les inhumanistes. Et c'est donc chez Grasset, et je rappelle que cet entretien a été enregistré. C'est pour ça qu'on a un petit peu de bruit, mais
c'est bien, c'est convivial. Comme
voilà,
ça.
Dans le hall du Grand Hôtel de la Cloche, où vous étiez invité fin février, dans le cadre du club des écrivains de Bourgogne. Je salue d'ailleurs Evelyne Philippe, organisatrice de ce club. Et merci Charles Danzig d'avoir été l'invité de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion. Alors, Charles Danzig, ceux qui nous ont manqué, ce qui est fâcheux d'ailleurs, peuvent nous retrouver en podcast. Et oui, c'est ça, c'est magique, la modernité, un mot que vous détestez. Ça, c'est un mot vulgaire, modernité.
Non, c'est un mot ambigu qui ne veut pas dire grand-chose.
C'est pas grossier, c'est pas vulgaire. Identité et modernité sont des termes vulgaires.
Non, pas modernité. Je ne dis pas modernité. Non, pas du tout. Identité, oui, parce que c'est un mot, j'appelle ça un mot cloche. C'est les mots qu'on nous serine depuis des années, qui sont autorité, identité, etc. Et qui nous rendent pareils à des bœufs qui marchent derrière leur cloche et qui sont des mots tous d'autoritarisme. Donc sûrement pas modernité. Non, j'ai rien contre elle.
Alors, inventaire de la basse période qu'on retrouve donc en podcast sur yannickpetit.fr. Excellent congé de fin de semaine. Plutôt que week-end. Excellent congé de fin de semaine à toutes et à tous. Au revoir.
Au revoir et merci.
Atlantique. Et puis à samedi prochain pour celles et ceux qui nous suivront.